Dossier 9. Épreuve orale collective. Lisez les questions, puis cochez la bonne réponse.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Flaubert les appelait ses bichons comme deux animaux de salon. Eux, ce sont les frères Goncourt, Edmond l'aîné et Jules son cadet. Ensemble, ils ont construit une carrière littéraire, partageant les mêmes goûts et les mêmes ambitions. Certains ajouteraient la même aigreur mordante. Nous allons parler de ce duo incontournable dans les réseaux parisiens de la seconde moitié du 19e siècle. Qui étaient-ils? Comment expliquer leur influence? Pourquoi peuvent-ils encore nous surprendre? Nous sommes donc en compagnie de Pierre Dufieff qui a signé leur biographie avec Jean-Louis Cabanès aux éditions Fayard. Il est professeur émérite de littérature à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Pierre Dufieff.
Bonjour madame.
Alors cette année, nous fêtons les 200 ans de la naissance d'Edmond de Goncourt. Mais en réalité, son nom est toujours associé à celui de son frère, comme s'ils étaient jumeaux. Pourtant, 8 ans les séparent. Quelle est cette relation étonnante entre ces deux frères?
Oui, alors effectivement, lorsqu'on parle des Goncourt, on parle des frères, hein, comme si constituaient une sorte de couple fraternel, durable, mais un couple qui n'est pas un couple dès le départ, comme vous le rappelez justement. Il y a un écart d'âge de 8 ans entre les deux. Ils ont eu des jeunesses tout à fait différentes, séparées. Jules a perdu son père très très jeune, alors qu'il avait seulement 2 ans. Edmond a connu assez longtemps son père, hein, qui l'a influencé, qui l'a éduqué. Ils ont fait des études chacun de leur côté. Ils ont eu des amis séparés. Et leur gémellité s'est construite en quelque sorte à la mort de leur mère. Hein, lorsque leur mère est morte, elle a eu un geste que Edmond va rappeler souvent et que Jules rappellera aussi. Elle a joint leurs mains, hein, et en joignant leurs mains, elle a scellé en quelque sorte une union post-mortem qui sera durable. Et ce geste les a tellement marqués qu'ils en ont fait leur ex-libris, hein, l'ex-libris étant la marque d'un auteur sur ses ouvrages. Et l'ex-libris des Goncourt représente des doigts joints. Donc cette union fraternelle a été constituée à la mort de leur mère. À la mort de leur mère, ils sont partis faire un long voyage dans le midi de la France, à pied ensemble, puis en Algérie. Et c'est là que tous deux ont commencé à peindre ensemble et surtout à écrire un carnet de voyage qui constitue leurs premières notes, leurs premiers écrits, les débuts de leur journal. Et cette fraternité, bon, exceptionnel, bon, a été tel que dans leur journal, les Goncourt racontent qu'ils font les mêmes rêves, qu'ils partagent, je dirais, de manière un petit peu surprenante, la même maîtresse, Maria. Ils écrivent ensemble leurs romans, ils écrivent ensemble leur journal. Et après la mort de Jules, en 1879, Edmond de Goncourt écrira un livre qui s'intitule « Les frères Emgano », où il raconte la vie de deux clowns très, très, très unis, hein, deux frères encore, où il essaie de faire revivre, dans des figures de clowns, celles des deux écrivains qui se sont si tendrement aimés. Et donc la mort de Jules sera pour Edmond une rupture violente, cruelle, et on parlera d'ailleurs à son propos à ce moment-là du veuve d'Auteuil.
Comment écrivent-ils à 4 mains? C'est un procédé assez étonnant et finalement peu courant.
Oui, alors c'est un procédé qu'il est intéressant d'étudier, effectivement, et sur lequel, bon, on peut s'interroger. Les Goncourt écrivent à 4 mains. Alors, une main tient la plume. Hein. On se rend compte que dans la correspondance, hein, là où on a conservé les manuscrits, l'écriture de Jules domine. Hein. C'est lui qui écrit les lettres. C'est lui qui va écrire essentiellement le journal pendant la période des deux frères. Les romans sont en partie, alors pour les manuscrits qui ont été conservés, mais pour l'œuvre des deux frères, beaucoup de manuscrits ont été détruits. Là aussi, hein, les écritures alternent parfois, mais l'écriture de Jules domine. Alors comment procédait-il? Bon, il semble que Edmond était plutôt celui qui établissait le plan, c'était le constructeur de l'œuvre. Ensuite, ils rédigeaient ensemble, d'après ce qu'on peut supposer, chacun une partie, un chapitre, puis ensuite ils les mettaient ensemble, hein, ils se relisaient et ils essayaient de mettre ensemble l'écriture de chacun pour faire une écriture commune. Alors dans leurs premières œuvres, leur premier roman qui s'intitule En 18 est un petit roman fantaisiste et ils critiquent ce petit roman en disant qu'on y sent trop la disparité des styles. Et petit à petit, au fil de l'écriture et au fil de l'exercice, comme dans un orchestre, hein, ils vont en quelque sorte assortir leur musique, hein, et avoir un style qui devient un style commun. Alors lorsqu'Edmond est veuf, après la mort de Jules, on se rend compte que son style personnel apparaît peut-être plus sec, moins imagé, moins créatif que celui de son frère Jules. Ce sont des œuvres qui sont plus courtes, peut-être un peu moins poétiques, en tout cas avec moins de créativité verbale. Donc la comparaison de la manière des deux frères et celle d'Edmond Sol permet aussi d'établir la façon dont chacun rédigeait.
Est-ce qu'il y a une sorte d'émancipation d'Edmond à la mort de son frère ?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'émancipation d'Edmond. Il y aurait peut-être eu plutôt une tutelle d'Edmond sur Jules. Hein. Edmond était le grand frère. Jules était très fantaisiste, très créatif. Et Edmond, dans les romans ou dans la pièce de théâtre Henriette Maréchal, où il représente deux frères, un frère aîné, un frère cadet, se représente toujours dans cette position de l'aîné un peu trop sérieux. Dirigiste hein, par rapport au jeune cadet, fantaisiste, plein de gaieté, d'humour. Edmond se représente comme un être sérieux, un peu austère, un peu ronchon, alors que Jules était beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusant. Donc ce rapport d'autorité fraternelle, paternelle, va plutôt dans le sens, je dirais, classique, hein, du grand frère au petit frère.
Quelle était leur ambition dans le domaine littéraire ?
Alors, leur ambition dans le domaine littéraire, dès le départ, dans leur correspondance, on trouve des remarques du style « nous écrivons pour être connus hein. ». Il y a un désir, si vous voulez, de célébrité médiatique hein, qui se manifeste dans leur tout début. Et puis ensuite, il y a, je pense, chez les Goncourt, un désir constant d'innovation, c'est-à-dire le désir de se renouveler, le désir de ne pas se répéter, le désir de créer des formes d'écriture nouvelles. Et je pense que c'est ça leur volonté essentielle.
Y sont-ils parvenus, selon vous ?
Je pense qu'ils y sont parvenus, effectivement. Lorsqu'on lit l'œuvre des Goncourt dans sa continuité, on s'aperçoit qu'ils ont pratiqué des genres très différents. Ils ont été historiens. Ils ont été historiens de l'art du XVIIIe siècle, ils ont été historiens, Edmond Sol en 91 et en 96, historiens de l'art japonais, ils ont été diaristes, ils ont écrit ce très long journal qui couvre la période 1851-1896, ils ont été romanciers, ils ont pratiqué des formes d'écriture extrêmement diverses, hein, et ils ont été des initiateurs des grands courants que l'histoire littéraire ensuite a retenus, initiateurs du naturalisme, hein, Zola les reconnaîtra comme des maîtres, initiateurs pour Edmond, avec ses derniers romans, de ce qu'on appelait la littérature fin de siècle, la littérature décadente. Donc ils ont joué un rôle manifestement important dans l'histoire littéraire, et on relit, leurs romans ont été, et leur journal, ont été appréciés, je dirais, par les plus grands esprits de leur temps. Hein. Citons quelques exemples. Hein. Nietzsche aimait l'œuvre des Goncourt. Thomas Mann va rédiger ses romans inspirés, dans une certaine mesure, par le modèle des Goncourt. Marcel Proust pastichera les Goncourt. Ce sont des romanciers de l'image et des romanciers de la description qui vont aussi fasciner les artistes. Toulouse-Lautrec va peindre une série d'illustrations pour le roman d'Edmond de Goncourt paru après la mort de Jules, La fille Elisa. Degas va aussi tenter des illustrations pour les romans des Goncourt. Donc il y a véritablement une fascination des artistes pour l'œuvre des deux frères.
Alors pourquoi sont-ils tombés dans l'oubli avec le temps ?
Alors ils sont tombés dans l'oubli pour des raisons diverses. Ils ont été peut-être écrasés par la production massive de Zola. Ils sont tombés dans l'oubli aussi peut-être pour des raisons politiques. Hein. Les grands auteurs qui ont été promus sont des auteurs qui incarnaient l'esprit de la Troisième République, hein, cet esprit de progrès, cet esprit de laïcisation. Or, les Goncourt sont conservateurs. Hein, ils ont été parfois assez hostiles, en tout cas dans le cas d'Edmond, aux idéaux de la République laïque, parfois hostiles au progrès, parfois, assez souvent, ils ont tenu des propos misogynes. Donc, toute une série, si vous voulez, d'éléments idéologiques et politiques qui peuvent expliquer le relatif discrédit d'auteurs qu'on peut classer dans la catégorie, à certains égards, des antimodernes.